Vraie ville PM. Paranormal.
The flying disc has been found.
El mítico Chupacabras.
Les enquêtes de Christian Page.
Il est là.
Salut Bernard.
Bonne année Christian Page.
Bonne année à toi aussi.
C'est toujours un plaisir de finir la semaine avec toi.
Oui.
Et encore une fois, tu nous as préparé une belle liste de sujets. On va commencer avec ce qui reste quand même un immense mystère qui nous attriste vraiment beaucoup. En tout cas, moi, ça me touche encore, cet avion de la Malaysian Airlines, le vol MH370 qui est disparu et on n'a toujours pas retrouvé d'épave, on ne sait toujours pas où il s'est abîmé en mer, et là, il y a de nouvelles recherches qui vont être entreprises.
Oui, tu as utilisé la bonne expression en disant le mystère, parce que c'est vrai que c'est la disparition de ce MH370 demeure à ce jour le plus grand mystère de l'histoire de l'aviation. Alors, pour les gens qui nous écoutent, là, si tu me permets, je vais quand même un peu résumer ce qui s'était passé à l'époque. Mm-hmm. L'appareil, on est le 8 mars 2014, l'appareil décolle de l'aéroport de Kuala Lumpur à destination de Pékin, Beijing. Et alors, après quelques minutes seulement de vol, volontairement, parce qu'on connaît quand même quelques éléments, quelqu'un volontairement a coupé les transpondeurs de l'appareil. Donc, les transpondeurs, ce sont des petites balises qui envoient de l'information autour de contrôle et qui dit « je suis tel numéro de vol, je me déplace à telle ou telle altitude ». Donc, ces informations qui sont retransmises sur l'écran radar proviennent de cette balise qu'on appelle le transpondeur. Et cette balise ne peut être désactivée que de manière volontaire. Donc, quelqu'un à bord de l'appareil, pilote ou copilote, a désactivé ses balises. Donc là, à partir de ce moment-là, on perd la trace de l'appareil, mais parce qu'il y avait des satellites en orbite, des satellites de communication, des satellites de repérage, on a pu quand même suivre un peu le tracé de cet appareil. Il change soudainement de direction, va rebrousser chemin pour se retrouver au-dessus de l'océan Indien où on va perdre sa trace. Tu l'as mentionné, l'appareil, on parlait ici d'un Boeing 777 de la Malaysian Airlines. Il contenait 239 personnes à bord. Immédiatement après la disparition de l'appareil, s'est engagé d'énormes recherches. On a parcouru, on a couvert en fait une zone océanique de 120 000 kilomètres carrés.
Ah ouais, je me rappelle.
Il y avait plusieurs pays impliqués, particulièrement les recherches partaient notamment de l'Australie.
Voilà.
Le coût a été à peu près, grosso modo, de 200 millions de dollars. Et comme tu sais, on n'a absolument pas retrouvé l'appareil, on n'a pas retrouvé les boîtes noires. Il faut attendre l'été 2015 pour retrouver dans un premier temps sur l'île de la Réunion et ensuite sur les côtes du Mozambique. Donc, on parle ici de la côte orientale de l'Afrique. On va retrouver des débris, notamment un volet de l'appareil, qui vient confirmer l'hypothèse que l'appareil a certainement dû s'écraser dans l'océan Indien. Mais les circonstances de cet écrasement, on l'ignore. En mars 2015, le gouvernement malaisien avait émis un communiqué. Un premier communiqué, en fait, qui était une conclusion d'enquête qui disait on est d'avis, les experts sont d'avis que les gens sont morts suite à une dépressurisation soudaine et possiblement volontaire à l'intérieur de la cabine. Mais pourquoi? Dans quelles circonstances? Acte de terroriste? Dans ce cas-là, pourquoi aucune organisation ne l'a revendiqué? S'il s'agissait d'une volonté d'un suicidaire, parce qu'on a vu, ça s'est passé dans l'histoire de l'aviation, des gens, des suicidaires qui ont entraîné avec eux l'équipage et les passagers. Dans le cas présent, on a enquêté sur les pilotes, on n'a rien trouvé qui permettait d'aller dans cette direction-là. Bref, le mystère reste entier. Bien sûr, l'histoire a été aussi récupérée par les tenants des théories du complot, parce qu'il faut se rappeler que dans l'océan Indien, là où est disparu le fameux vol MH370, il y a une île de propriété britannique qui est occupée à peu près par un seul locataire, la NSA. Cette île s'appelle l'île de Diego Garcia. Et rappelle-toi cette histoire de Edward Snowden qui avait quitté les services de renseignement américains en disant, en fait, la principale raison de son départ était qu'il avait découvert qu'il y avait un programme de surveillance des communications, en fait, de tout un chacun, autant les gens dans le domaine privé que les organisations, les industriels. Donc, il y avait une sorte de campagne d'études ou d'écoute électronique menée par la NSA et la CIA, programme qui s'appelle le programme Échelon. Or, les installations de la CIA et de la NSA pour le programme Echelon sont justement sur cette île de Diego Garcia. Tu comprendras que les théoriciens du complot ont dit « Oui, peut-être qu'on a détourné l'avion volontairement. » Il y avait, si on regarde dans la liste des passagers, il y avait une dizaine de scientifiques qui travaillaient dans des domaines de haut niveau, autant l'informatique que les sciences. Alors, est-ce qu'on aurait détourné l'appareil pour s'emparer de ces scientifiques? Une histoire abracadabrante à laquelle, bien sûr, moi, personnellement, je ne donne aucun crédit. Mais il faut quand même le mentionner, les théoriciens du complot ont capitalisé sur cette histoire.
Mais là, ils vont entreprendre entreprendre des nouvelles recherches.
Et bien sûr, on pense aux familles qui restent sans réponse. Et là, peut-être qu'on aura finalement une réponse. C'est une compagnie spécialisée dans la cartographie sous-marine, Ocean Infinity, qui, eux, au moment d'ailleurs où on se parle, Bernard, ils ont déjà envoyé sur le terrain 8 bateaux sans pilote et 8 mini-robots sous-marins. Ils ont à peu près une fenêtre de 90 jours pour des raisons de climat, des raisons de tempête, des raisons également de stabilité de l'océan, pour parcourir une région océanique. Et là, ce qui est intéressant, on a appris quand même quelque chose, parce que Ocean Infinity ont lancé ça en début de semaine. Ils allaient entreprendre cette énième recherche pour retrouver le MH370. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est pas de résultats, pas de sous, parce que le gouvernement malaisien propose 50 millions de dollars à quiconque va retrouver l'épave ou les boîtes noires. Alors, dans le cas de Ocean Infinity, eux disent, ils ont en fait l'entente qu'ils ont avec le gouvernement malaisien, si on n'a pas de résultat, on ne sera pas payé. Donc, déjà là, il y a une sorte d'entente équitable. Et ce que l'on apprend à travers le communiqué d'Ocean Infinity, c'est que déjà en mars 2014, lorsque l'appareil est disparu, il y avait un satellite français qui avait envoyé, en fait, qui avait pris des photographies d'une zone océanique beaucoup plus au nord de l'endroit où ont été menées les recherches. Or, dans cette zone océanique, on pouvait voir sur des photographies à peu près 70 débris qui flottaient. Et de ces débris non identifiés, plusieurs experts ont tablé en disant qu'il pourrait y en avoir quelques-uns là-dedans de par la forme qui ressemble étrangement à des objets qui auraient pu être usinés. Donc, on ne parle pas simplement d'objets comme ça à la dérive, des algues, on le sait aussi, des matières, des déchets. Non, on parle d'objets qui auraient pu être usinés, peut-être des morceaux d'avion. Alors, cette photographie était connue depuis 2014. Elle a été étudiée l'an dernier par l'Organisation de recherche scientifique et industrielle du Commonwealth qui, eux, ont tablé en disant « Il nous semble que ces débris pourraient être des débris d'avion. On ignore pourquoi cette zone a été ignorée durant les recherches initiales. Quoi qu'il en soit, Ocean Infinity a l'intention d'explorer cette zone. Et comme je l'ai mentionné, s'ils trouvent, leur espoir, bien sûr, c'est de retrouver les boîtes noires et lever le voile sur ce mystère du MH370. On espère, bien sûr, qu'ils auront des résultats, ne serait-ce que pour réconforter les familles des disparus.
Ah, totalement, totalement. Alors, écoute, on va s'arrêter parce que là, il faut parler de Mars. Il y a quand même des nouvelles informations qui nous sont parvenues de Mars, des images très curieuses d'ailleurs.
Oui, absolument.
Qui ressemblent un peu comme à des vers. Hein?
Oui, fossiles.
Alors, on va en parler dans un instant après la pause. De retour avec nos mythes et complots avec Christian Page. Christian, parle-nous donc de ces images qui nous sont parvenues, de la planète Mars grâce encore une fois au fameux rover Curiosity.
Oui.
Qui fait vraiment un superbe boulot. Hein.
Oui, voilà. En fait, au moment où on se parle, il y a deux robots qui se baladent sur Mars et qui nous renvoient presque au quotidien des images. Il y a Curiosity, dont on va parler un peu plus longuement, qui lui s'est posé le 6 août 2012. Sur la surface de la planète rouge. Et puis, il y a quand même le robot Opportunity qui est sur Mars depuis 2004. Donc, Opportunity est à peu près gros comme un gros ordinateur de maison. Curiosity est un peu plus gros. Il est à peu près gros qu'une petite voiture. Et ce Curiosity, il a sur le dessus de l'appareillage, il a une espèce de bras articulé qui se termine par un ensemble de petits appareils qui permettent de faire des analyses géologiques, dont un appareil photo muni d'une espèce de lentille. Et voilà, Curiosity, il y a quelques jours, s'approche d'un rocher, prend des photographies, et par cette lentille grossissante, on s'aperçoit que sur le rocher en question, il y a des formes grisâtres. Écoute, pour le besoin des auditeurs, on va faire un peu une analogie. Imaginons des espèces de crottes au fromage, mais grises. Hein? Un peu comme quand on était jeune, tu te rappelles, la pâte à modeler, là, ce gris plâtre un peu. Donc, ces formes ressemblent un peu, excuse-moi l'expression, mais à des crottes de fromage. Et qui font, bien sûr, qui sont très atypiques sur le rocher de Mars. Parce qu'on le sait, la roche martienne est un peu rouge-rose. Et on a ces formes grisâtres. Et là, dès que les scientifiques... C'est quand même tout petit, hein? Ça fait à peu près 5 mm de long par 2 mm de large. Et il y en a une demi-douzaine à peu près sur la surface du rocher. Alors, évidemment, en voyant ça, les experts de la NASA et du JPL Center, le Jet Propulsion Laboratory, qui en fait voit la supervision des images qui sont transmises par les sondes, en voyant ça, évidemment, ils se sont mis à se gratter la tête en se disant « Mais mon Dieu, qu'est-ce que c'est que ça ?» Et c'est vrai que de par la forme, de par la couleur, de par la structure, ces formes ressemblent étrangement à des fossiles tels qu'on en retrouve sur Terre, des fossiles qui datent de l'époque du précambrien. Donc, c'est une ère géologique terrestre où on a vu apparaître les premières formes de vie sur la Terre. Et quand on retrouve des rochers, là où il y a un amalgame entre un minerai et une forme biologique au niveau des fossiles, ça ressemble étrangement à ce que l'on observe sur cette roche de Mars.
Ça pourrait être comme des invertébrés, là.
Voilà, un peu comme des vers qui se seraient développés il y a très, très longtemps sur Mars et dont là, on aurait la première image de ces fossiles. Évidemment, tout ça, pour nous, le commun des mortels, ça nous semble un petit peu désuet de dire on parle tellement de la vie extraterrestre, on a tellement l'imagerie d'une civilisation extraterrestre qu'on en est presque devenu à se dire bon, la vie bactériologique doit pulluler un peu partout dans l'univers. Mais dans les faits, Bernard, je te rappelle que la seule vie que l'on n'a jamais observée, c'est la vie sur Terre. Même si on spécule sur la vie ailleurs dans l'univers, et on le sait que même dans notre propre système solaire, il y a d'excellentes candidates à la vie. On pense par exemple à Encelade, qui est une lune de la planète de Jupiter. On n'a jamais observé de forme de vie ailleurs que sur Terre. Alors là, évidemment, en observant ces formes, on s'interroge, est-ce qu'il s'agit d'une vie fossile qui est demeurée là? Et là, bien sûr, il faudra d'autres expertises. Il faudra envoyer certainement d'autres robots équipés de manière plus systématique pour pouvoir faire des analyses géologiques. Mais s'il devait s'avérer que ces formes observées sont bel et bien des traces fossiles d'une ancienne vie martienne, ça serait, sur le plan de la science, l'une des plus grandes découvertes de tous les temps, puisqu'on aurait enfin la preuve que la vie peut ou s'est développée ailleurs dans le cosmos, autre que sur la Terre.
Et avec tes recherches, est-ce que si jamais c'était effectivement... Une vie qui a déjà existé sur Mars, est-ce que à ce moment-là, on peut en conclure qu'il y avait nécessairement de l'eau? Est-ce que l'un nous amène à l'autre?
En fait, la question que tu poses est en fait fort intéressante parce que jusqu'à maintenant, la vie telle qu'on la connaît, c'est une vie basée sur un modèle de carbone. Or, oui. Cette vie carbonique est certainement le... Parce que c'est un modèle facile. On peut imaginer d'autres formes de vie basées, par exemple, sur l'ammoniac et basées sur la silice. Mais ce sont des matériaux tellement rares dans l'univers que trouver les conditions nécessaires pour qu'ils puissent donner naissance à la vie, c'est invraisemblable. Alors que le carbone, l'hydrogène, l'oxygène sont des matières qui sont excessivement répandues dans le cosmos. Donc, imaginez qu'on retrouve ces éléments-là dans un même lieu, c'est beaucoup plus envisageable que d'autres sources. Et cette vie du carbone, elle a besoin d'un élément, d'un diluant, d'un dissolvant, et ce dissolvant, c'est l'eau à l'état liquide. S'il y a une forme de vie qui s'est développée sur Mars, il s'agit sans aucun doute d'une vie à base de carbone, et s'il y a eu une vie sur une base de carbone, c'est que forcément, il y a eu de l'eau à l'état liquide. Mais déjà, l'eau à l'état liquide est à peu près un acquis. Les différentes informations transmises par les nombreuses sondes martiennes, il faut se rappeler que les premières sondes envoyées sur Mars datent du milieu des années 70, c'était les sondes Viking, et depuis les années... Et là, il y a eu une grande période période de relâche. Et puis, depuis 1990, il y a presque une occupation permanente de robots à la surface de Mars. Donc, sur cette période d'une vingtaine d'années, ils ont transmis des milliers d'informations. Et la plupart des scientifiques ont acquis à peu près sur ces données la certitude que dans un temps très, très reculé, il y a eu de l'eau à l'état liquide. Et on croit même qu'il pourrait encore exister de l'eau, peut-être de l'eau gelée, mais à tout le moins de l'eau encore à l'état solide qui pourrait se trouver dans le sous-sol de Mars.
Ce qui serait extraordinaire.
Absolument.
Parce que si jamais on se pose sur Mars et qu'il y a de l'eau, bien évidemment, ça pourrait nous permettre d'abord de, peut-être de faire plus facilement le voyage du retour.
Voilà, une économie et trouver le moyen de transformer cette eau solide en eau liquide pour la consommation des astronautes sur place.
Voilà, exactement. Parlant des astronautes, parce qu'il nous reste seulement deux petites minutes, il y en a un qui nous a quittés cette semaine. Et c'est pas n'importe qui, c'est un des 12, dans le fond, qui a marché sur la Lune.
Voilà, et il y a des gens qui ont eu des carrières exceptionnelles, et celui-là en est un. C'est l'astronaute John Young. Il est décédé le 6 janvier dernier. Il avait 87 ans. Et c'est un type qui était remarquable. Tu sais, les astronautes, les premiers astronautes parmi ceux qui ont marché sur la Lune, vraiment, la sélection se faisait sur l'endurance, sur la capacité psychologique. C'était vraiment presque des surhommes.
L'habilité et aussi voilà, des pilotes de chasse.
Et oui. Ce John Young est l'un de ces 12 hommes à marcher sur la Lune. Le seul être humain à avoir fait le voyage à la Lune deux fois, parce qu'il a volé d'abord sur la mission Apollo 10, qui était une mission qui était une grande répétition de l'atterrissage d'Apollo 11. En fait, on avait même largué un module d'atterrissage qui est descendu jusqu'à 15 km de la surface lunaire. On aurait pu atterrir à ce moment-là. Et bien sûr, on a décidé de remonter vers le module de commande pour laisser la chance aux astronautes d'Apollo 11. Donc, il a fait le voyage sur Apollo 10. Il a été sur la mission Apollo 11. Il est devenu le 9e homme à marcher sur la Lune avec son collègue Charles Duke. Il avait déjà volé sur les deux fois sur des missions Gemini. Et il a été le premier pilote de la navette Columbia, premier vol d'une navette. Tu te rappelles sans aucun doute, Bernard, ce lancement où les trois réservoirs étaient peints en blanc. Parce que quand on imagine la navette, on revoit toujours ces images des propulseurs blancs à gauche et à droite, et oui. Cet immense réservoir orangé au centre. Mais lors du premier lancement, pour épater la galerie, on avait peint en blanc ce grand réservoir qui est devenu orangé par la suite. Et c'était ce vol de la navette Columbia, deux astronautes à bord, ce fameux John Young et son collègue, un jeune pilote à ce moment-là, Robert Crippen. Ils ont volé pour la première fois avec Columbia. On était en avril 1981. Et avec le décès de John Young, il ne reste plus maintenant que 5 astronautes qui ont marché sur la Lune. Et quand j'ai appris le décès de John Young, je me suis rappelé un congrès d'aéronautique auquel j'avais assisté, où il y avait parmi les invités Buzz Aldrin, deuxième homme à marcher sur la Lune. Buzz Aldrin qui est devenu un militant pour la reprise de la recherche dans l'espace et l'envoi de missions habitées vers la Lune et vers les planètes.
Il est un personnage extraordinaire.
Absolument.
Atypique, là.
Oui, et Buzz Aldrin avait dit au micro, il avait dit « Je crains qu'un jour, il n'y ait plus personne sur Terre pour dire... » J'ai marché sur la Lune. Et c'est vrai que quand on regarde la façon dont ça se passe, on remet toujours à plus tard l'envoi d'hommes vers la Lune. Et maintenant, ils ne sont plus que 5 à avoir marché sur la Lune. Ces astronautes sont tous âgés de plus de 80 ans. Il serait pas étonnant si on n'envoie pas de... Je sais que la NASA prévoit envoyer des hommes sur la Lune d'ici 2025. Mais si ça ne se fait pas rapidement, malheureusement, la prédiction annoncée par Buzz Aldrin pourrait bien se révéler exacte.
Ouais, il paraît que Trump veut faire de la Lune une de ses priorités. On verra bien. Christian Page, merci, c'est toujours un plaisir.
Ça
on se
plaisir.
Reparle la semaine prochaine. Merci à vous, les auditeurs, d'être là, fidèles. À chaque jour, je salue en particulier Maryse Duchesneau, Larry Dufresne et Valérie Beaudoin cette semaine qui nous a accompagnés. Merci à vous trois. Il y a Paul Oud qui s'en vient avec le Québec maintenant dans un instant. Les auditeurs, s'il vous plaît, soyez prudents, soyez très, très prudents. Les prochaines heures vont être extrêmement difficiles et dans certains coins, ça va être vraiment critique, là. Soyez très prudents sur les routes. On veut vous retrouver lundi.